Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. La plongée au cœur des sources d'aujourd'hui va nous emmener sur un terrain
Particulièrement glissant.
c'est le mot, oui, dense, complexe et pour être tout à fait transparente, hautement radicale. Le document qu'on a sur la table, c'est un entretien qui a été publié le 21 février 2026 sur une plateforme qui s'appelle Servium. Et l'interview s'intitule Dans les coulisses de Servium avec Parsifal.
Mené par un certain Augustin J, d'ailleurs.
Voilà.
Mais avant d'entrer dans la mécanique de ce texte, je crois qu'il faut vraiment poser un cadre d'analyse très strict pour quiconque nous écoute.
Absolument, c'est indispensable.
Parce que ce document, il baigne littéralement dans des idéologies politiques extrêmes. La source parle ouvertement de nationalisme catholique radical, de remigration, et revendique de manière totalement explicite son adhésion au fascisme.
Oui, le mot est lâché, fascisme.
C'est ça. Donc notre mission, on le précise bien, n'est évidemment pas de cautionner ces idées,
Surtout pas.
ni de leur offrir une tribune complaisante. La démarche pour notre auditoire, elle s'apparente plutôt à celle d'anthropologue, en fait.
Qui observerait une sous-culture politique très spécifique?
Exactement. L'objectif, c'est vraiment de disséquer ce contenu de façon clinique. On veut comprendre l'architecture intellectuelle, la psychologie et la rhétorique qui structurent ce mouvement de l'intérieur.
Et c'est un point de départ qui est crucial. La mission d'aujourd'hui, c'est de comprendre la vision du monde de cet intervenant. Ce que lui-même, ce Parsifal, nomme sa Weltanschauung.
Sa vision du monde global, oui.
Et en fait, ce qui frappe direct à la lecture, c'est la rareté de cette transparence. On a face à nous quelqu'un qui détaille sans aucun filtre, son cheminement vers une radicalité totalement assumée.
C'est presque clinique de sa part.
Voilà. Et pour comprendre comment cette pensée se forme, il faut regarder d'où elle part. Parsifal, il insiste lourdement sur son ancrage. Il se présente comme un père de famille issu du terroir français, capable de tracer ses ancêtres jusqu'au XVe siècle.
Ce qui n'est pas rien.
Non, c'est pas rien. Et précisément dans le Rouergue du côté paternel et en Gascogne du côté maternel.
Et cet affichage généalogique, c'est pas juste pour faire joli, ça forme vraiment le socle même de sa doctrine. En remontant au XVe siècle, l'individu cherche à asseoir une légitimité par le sang et par la terre.
Ouais, c'est l'enracinement pur.
Totalement. Dans cette matrice de pensée traditionnaliste, l'individu en lui-même n'est rien d'autre qu'un maillon temporaire au sein d'une chaîne ininterrompue. C'est une façon de dire que la légitimité, elle précède l'existence individuelle.
Ce qui s'oppose de fait frontalement à la vision moderne et libérale où l'individu se construit lui-même à partir de rien, quoi.
Exactement. C'est le rejet de l'individu roi.
Et le texte révèle d'ailleurs un paradoxe politique originel assez stupéfiant quand il parle de ce milieu familial.
Ah oui, ça c'est fascinant.
Il décrit une famille catholique pratiquante, mais dont l'orientation politique est définie, et les mots sont forts comme étant à la fois socialiste et racialiste.
Ouais, c'est un cocktail détonnant.
Sur le papier, c'est complètement contradictoire, hein. Comment un tel logiciel hybride peut se former?
L'entretien évoque l'influence des jeunes années de son père au contact des rapatriés de l'Algérie française dans le sud de la France. Et cette combinaison, elle prend tout son sens quand on se replonge dans ce contexte très particulier du sud de la France après 1962.
D'accord, l'après-guerre d'Algérie.
C'est ça. Le socialisme de cette région à l'époque, c'était souvent un socialisme de terroir, très ouvrier et paysan, ancré dans les traditions locales.
Pas vraiment le socialisme urbain d'aujourd'hui.
Pas du tout. Et l'arrivée massive des pieds-noirs, qui étaient profondément traumatisés par la perte de l'Algérie, ça a créé un choc culturel et politique énorme.
Je vois.
Une partie de cette gauche locale a absorbé une grille de lecture très conflictuelle, très racialisée des relations avec les populations d'Afrique du Nord, tout en conservant une approche sociale sur le plan économique.
C'est ce terreau paradoxal qui sert de point de départ à Parsifal, en fait.
Exactement.
Sauf qu'il va rompre violemment avec ce point de départ. Il évoque ce qu'il appelle un réflexe adolescent qui le pousse à rejeter la vénération paternelle pour la résistance et pour l'État d'Israël.
C'est là que la bascule opère.
Voilà, et là s'enclenche une véritable escalade idéologique. Le texte détaille toutes ces étapes. D'abord, il se tourne vers la Révolution nationale du maréchal Pétain.
Le régime de Vichy, donc.
C'est ça. Il juge que le triptyque travail-famille-patrie est plus organique que la devise républicaine. Ensuite, il passe par le traditionnalisme catholique, puis il glisse vers le légitimisme monarchique.
Ce qui est encore une autre étape.
Oui. Et enfin, ce qu'il qualifie de stade de la maturité, attention, c'est l'adhésion au fascisme. avec un S à fascisme.
Chaque étape de ce parcours mérite vraiment qu'on s'y arrête, parce que c'est un cas d'école, hein, de la quête d'ordre absolu. Le passage par Vichy, ça lui offre un premier cadre d'autorité, très pragmatique.
Oui, très ancré dans l'histoire française récente.
Voilà. Ensuite, le légitimisme monarchique apporte une dimension spirituelle. Pour bien comprendre ce terme, qui est souvent méconnu d'ailleurs, le légitimisme, c'est pas juste une simple nostalgie des châteaux ou de la royauté.
C'est pas Stéphane Bern, quoi.
Non, pas du tout. C'est un courant politique dur qui considère que toute la Révolution française de 1789 est une erreur monumentale, une anomalie. Les légitimistes prônent le retour au pouvoir des descendants directs de la maison de Bourbon.
Selon les lois fondamentales d'avant la Révolution.
Exactement. Ils affirment que le pouvoir vient de Dieu et non du peuple. C'est le rejet total, catégorique de la modernité politique.
Donc on passe d'un rejet de la République à un rejet total des Lumières pour finalement aboutir au fascisme. Et l'utilisation du pluriel m'a beaucoup interpellé à la lecture.
Oui, pourquoi ce « s » à la fin ?
Ben justement.
En utilisant ce pluriel, ils signalent en fait qu'ils fétichisent pas un seul régime historique précis, genre l'Italie de Mussolini ou le Troisième Reich.
Ils s'enferment pas dans une seule case.
C'est ça. Ils appréhendent le fascisme comme une matrice intellectuelle malléable, une sorte de méthode globale de remise en ordre de la société face à ce qu'ils perçoivent comme une décadence totale.
C'est sa synthèse ultime.
Voilà. Marier l'autorité traditionnelle avec une forme d'énergie révolutionnaire moderne.
Et cette synthèse, il la nourrit d'une manière assez surprenante quand on en vient à ses références culturelles. L'intervieweur Augustin J. lui demande quelles sont ses inspirations historiques.
On s'attend au pire, du coup.
Mais on pourrait s'attendre à ce qu'il cite un dictateur du XXe siècle, logiquement. Mais pas du tout. Son modèle absolu, c'est Gaston III de Foix, dit Gaston Phébus. Le fameux lion des Pyrénées du XIVe siècle.
Ah oui, le Moyen-Âge flamboyant.
Parsifal le décrit comme le modèle parfait du, je cite, « despote éclairé occitan ». À la fois chef de guerre victorieux, fin diplomate et grand poète.
Et Gaston Phébus est une figure historique vraiment fascinante. Et le choix de ce modèle révèle toute la psychologie du militant, en fait.
Comment ça ?
Phébus, c'était un prince d'une ambition dévorante. Il a su tenir tête au roi de France et d'Angleterre. Il entretenait une cour fastueuse. Il écrivait des traités de chasse qui faisaient autorité dans toute l'Europe. Il cultivait les arts.
Un homme très raffiné, donc.
Raffiné, oui, mais c'était aussi un souverain d'une brutalité implacable. Il faut rappeler qu'il n'a pas hésité à assassiner son propre fils par paranoïa politique.
Ah oui, quand même. La brutalité pure.
Totalement. Pour un esprit radical moderne comme Parsifal, Phébus incarne le mythe de l'esthète armée. C'est la fusion parfaite entre la culture la plus raffinée, très enracinée dans une identité locale forte, et l'exercice d'une autorité brutale absolue. Ça lui permet de se draper dans une espèce de lignée chevaleresque et noble.
Et cette volonté d'allier la brutalité à la culture, ça transparaît massivement dans ses choix littéraires aussi. La liste des auteurs qu'il affectionne balaie très large. On y trouve Milan Kundera, Curzio Malaparte, Mikhail Bulgakov et l'écrivain autrichien Hermann Broch.
C'est pas la bibliothèque typique du militant de base, disons.
Pas du tout. Hein. Parsifal soutient que la littérature permet de dépasser les clivages politiques pour s'élever vers le beau, avec un grand B. Mais le nom qui trône vraiment au sommet de son panthéon, c'est Pierre Dru-La Rochelle, qu'il désigne carrément comme le plus grand romancier français de l'entre-deux-guerres.
Et Dru-La Rochelle, c'est la clé de voûte pour comprendre ce mécanisme psychologique ?
Pourquoi lui, spécifiquement ?
Drieux était un intellectuel brillant, un mondain, l'auteur de romans majeurs comme Gilles. Mais c'était aussi un homme fasciné par la force, par la jeunesse et par la violence. Ce qui l'a conduit, faut-il le rappeler, à devenir une figure de proue de la collaboration pro-nazie sous l'occupation.
Avant de se suicider à la Libération.
Exactement. Le fait de le placer au-dessus de tout ça illustre un concept fondamental en sciences politiques, ce qu'on appelle l'esthétisation de la politique.
Est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne concrètement, l'esthétisation de la politique ?
Bien sûr. C'est l'idée que la politique n'est plus envisagée comme la simple gestion rationnelle des affaires publiques, tu vois, la construction de routes ou l'équilibre des budgets. Ça, c'est la politique bourgeoise pour eux.
C'est trop terre à terre.
Voilà. Au contraire, la société est perçue comme une vaste toile et l'action politique devient une œuvre d'art dramatique épique. Dans cette logique, même la guerre, la violence ou la destruction sont glorifiées si elles produisent de l'intensité, de l'héroïsme ou de la beauté esthétique.
C'est terrifiant vu comme ça.
Oui, et c'est pour ça que Parsifal perçoit les immenses tragédies du XXe siècle comme un bouillon de culture grandiose. C'est vraiment la quête du sublime dans le chaos.
On voit très bien comment cet imaginaire romantique, quasi médiéval, se construit dans sa tête. La question qui se pose alors, c'est comment un tel individu traduit ses concepts dans la réalité du XXIe siècle ?
C'est là qu'on entre dans la stratégie pure.
Oui, parce que le texte consacre une grande partie aux stratégies concrètes, notamment les injonctions qui sont données à la jeunesse. Et le point de départ de son analyse stratégique, il est purement démographique. Quand Parsifal observe ce qu'il appelle le monde blanc, sa conclusion est sans appel. Pour lui, c'est une catastrophe.
Un effondrement, oui.
Il évoque une chute de la natalité, un vieillissement inéluctable et une immigration extra-européenne qu'il considère comme une invasion. Donc le premier conseil qu'il donne aux jeunes militants est trivialement biologique, c'est de faire des enfants.
Mais avec une précision cruciale dans l'entretien.
Voilà, il ne s'agit pas de procréer à l'aveugle.
Non, ce rejet de la quantité pure au profit de la qualité, ça révèle un fond extrêmement élitiste. Il s'oppose à l'idée de faire des enfants pour, je cite, simplement regarnir des statistiques démographiques, si le résultat final, c'est de les laisser s'abrutir devant la télévision ou les réseaux sociaux.
Ça n'a aucun intérêt pour lui.
Aucun. Son projet, c'est de forger les maillons suivants de la chaîne. Il préconise une éducation restreinte, mais ultra ciblée, tournée vers la lecture et la transmission du bien et du beau.
Toujours ces majuscules.
Toujours. En fait, il s'agit d'un projet civilisationnel, c'est élever une aristocratie militante au sein même du foyer familial.
Mais la formation intellectuelle qu'il prône, elle dépasse largement le cadre familial. Il exhorte la jeunesse nationaliste à lire, à se structurer, à fuir vraiment les slogans faciles d'Internet. Et c'est là qu'on tombe sur une recommandation honnêtement complètement inattendue venant d'un militant fasciste.
La fameuse recommandation de lecture.
Oui, il ordonne littéralement de lire Karl Marx.
C'est contre-intuitif au possible.
Mais carrément, il argumente qu'on ne peut pas comprendre la nocivité du communisme sans aller à la source, en décortiquant le Capital ou le manifeste du Parti communiste, plutôt que de juste picorer les critiques simplistes qui sont faites par la droite bourgeoise.
Et c'est un détail qui en dit très long sur la méthode. Cette injonction à lire le principal théoricien du camp adverse, ça montre que la stratégie de ces groupuscules ne repose plus du tout sur l'ignorance ou la simple réaction épidermique.
Ils veulent élever le niveau.
L'objectif, c'est de maîtriser la dialectique ennemie. En lisant Marx, ces militants cherchent à s'approprier les outils d'analyse critique du capitalisme et de la lutte des classes.
Pour en faire quoi, du coup?
Pour ensuite les retourner au profit d'une lecture raciale et nationaliste. C'est vraiment la création d'une avant-garde intellectuelle affûtée, capable de tenir un débat de haut vol face à n'importe quel adversaire.
Et cette avant-garde intellectuelle, elle doit aussi être une force physique. Parsifal exprime un grand regret, c'est de ne pas s'être engagé plutôt dans un groupe militant organisé. Il fait l'éloge de la discipline de terrain, de l'entraînement physique quotidien, de l'esprit de corps.
Le mens sana in corpore sano des radicaux.
C'est ça. Mais, et c'est un point qu'il souligne avec beaucoup de force, il méprise royalement les groupuscules qui cherchent que la bagarre de rue sans avoir d'ossature idéologique derrière.
Les fameux hooligans.
Voilà. Il juge cette agitation stérile et même dangereuse. Parce que selon lui, leurs effectifs sont beaucoup trop réduits pour être sacrifiés dans du simple hooliganisme.
Et ça démonte un cliché très répandu sur ces milieux. Le mouvement n'a que faire des voyous de quartier ou de l'excitation d'une violence désorganisée. Ce rejet de la simple bagarre montre vraiment la volonté de bâtir une phalange disciplinée.
Une troupe d'élite, en quelque sorte.
Exactement. Le militantisme physique sert avant tout d'école de la volonté. L'idée, c'est de créer un noyau dur résilient, prêt à survivre et à s'imposer le jour où, selon leur grille de lecture, le système actuel finira par s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions.
Et cet effondrement, Parsifal en est intimement convaincu. Ce qui introduit d'ailleurs un concept psychologique assez étonnant dans le texte, celui du pessimiste heureux.
C'est tout un paradoxe.
D'un côté, il dresse un portrait complètement apocalyptique de l'avenir, la baisse vertigineuse du niveau scolaire, le délitement des valeurs, le changement de population. Il annonce vraiment des temps terribles pour les générations futures.
Le grand soir sombre.
Oui.
Et pourtant, dans la même phrase, il affirme être profondément heureux. Il invite ses camarades à courir au-devant du danger avec le sourire et avec panache.
Cette posture du pessimisme héroïque, c'est un grand classique de la pensée radicale. Elle puise ses racines chez des penseurs traditionnels comme Julius Evola, avec cette fameuse idée de chevaucher le tigre.
C'est-à-dire, la situation objective est considérée comme perdue. La modernité a triomphé, le monde est en ruine. Mais au lieu de sombrer dans la résignation ou la dépression, le militant trouve son salut spirituel dans l'action pure.
L'action pour l'action.
C'est ça. Se tenir droit au milieu des décombres, affronter l'inévitable avec le sourire, c'est ce qui sépare l'aristocrate de l'esprit du bourgeois peureux. L'esthétique de la résistance devient la victoire elle-même.
Et cette haine de la résignation bourgeoise, elle nous mène tout droit à la position de Parsifal sur la démocratie. Augustin G., je lui pose la question évidente. Est-ce que le salut passera par les urnes?
On s'en doute, la réponse est non.
Elle tombe comme un couperet. C'est un non absolu. Le vote est qualifié de, je cite, « réacteur du système démocratique post-1945 ». Pire que ça, il le considère comme un mirage, une distraction qui épuise l'énergie vitale des militants.
Un piège, en somme.
Voilà, il décrit avec un mépris total ces militants de base qui suent et qui collent des affiches pour faire élire des politiciens en costume qui, une fois au pouvoir, s'empressent de trahir leurs promesses pour préserver leur petit confort matériel.
Ce diagnostic résonne assez curieusement avec un sentiment de désenchantement qui est très largement partagé aujourd'hui, bien au-delà des extrêmes pour le coup. L'idée que les élites sont déconnectées, que l'élection est un jeu truqué, on retrouve ça dans plein de mouvements sociaux contemporains.
C'est pas propre au fascisme, c'est sûr.
Non, mais là où un citoyen classique va réclamer une meilleure représentation ou plus de démocratie directe, bah la conclusion fasciste est à l'opposé complet. Il faut détruire le mécanisme électoral lui-même.
Le supprimer à la racine.
Voilà. Le vote est vu comme une anesthésie qui étouffe les instincts vitaux du peuple. L'objectif, c'est pas de réformer le système, c'est de le renverser par l'action d'une minorité résolue.
Mais alors, quel est le grand projet politique qui est censé remplacer ce système défaillant ? Parsival, il imagine la France comme un creuset historique multimillénaire qui a brassé des Celtes, des Latins et des Germains.
Le fameux mythe des origines.
C'est ça. Et il oppose radicalement cette continuité charmelle à ce qu'il nomme les récentes invasions africaines. Donc la politique qu'il appelle de ses voeux, c'est celle de la remigration pacifique.
Le mot est lâché, oui.
Mais il va encore plus loin. Pour lui, sécuriser un territoire, ça suffit pas du tout s'il manque un mythe fondateur derrière. Il regarde avec beaucoup de nostalgie l'idéal de la monarchie capétienne. Et il se lamente que le citoyen moderne ait cessé de rêver, qu'il se contente de s'accrocher craintivement à son pouvoir d'achat et à ses acquis sociaux.
Et cette lamentation, elle révèle ce besoin viscéral de transcendance qui anime cette idéologie. La remigration, au final, c'est que le programme pratique, logistique. Mais le véritable horizon, c'est la recréation du sacré en politique.
Retrouver un sens mystique, quoi.
Exactement. L'affirmation selon laquelle la population a besoin d'un chef, avec un grand C, à son image pour la guider, et d'une foi commune pour l'allier, c'est la définition même de la verticalité fasciste ou monarchique.
Plus de débat horizontal alors ?
Aucun. Il s'agit d'abolir totalement la primauté de l'individu, de ses droits, de ses désirs matériels, pour le fondre dans un grand corps collectif unifié par cette mystique.
Et pour oser prétendre façonner ce grand corps collectif, Parsifal s'impose des règles de vie d'une sévérité qui est absolue. L'éthique personnelle, elle occupe une place centrale dans son discours.
C'est très présent dans le texte, ouais.
Il s'astreint une discipline quasi-militaire qui touche au sommeil, à l'alimentation, à la pratique sportive et même à la maîtrise de ses propres émotions. Le raisonnement qu'il avance, c'est le suivant.
Quel est-il ?
Un individu abrite toujours en lui une part de ténèbres, de paresse, de faiblesse. Et s'il n'est pas capable de mener une guerre impitoyable contre ses propres défauts intérieurs, eh ben, il n'a strictement aucune légitimité pour prétendre corriger le monde extérieur.
Ça, c'est l'incarnation parfaite du mythe du moine-soldat. La rigueur ascétique ici, elle relève pas d'un simple souci de développement personnel façon coaching de vie.
Ah non, on est loin du Miracle Morning.
Très loin. C'est un instrument de validation morale. En s'imposant une vie dure et disciplinée, le militant s'achète une forme de pureté psychologique. C'est vraiment cette certitude d'être irréprochable sur le plan de l'hygiène de vie qui l'autorise moralement, dans son propre esprit, à exercer une violence symbolique ou physique sur le reste de la société qu'il juge corrompue.
C'est la justification par la 16, en fait. Il applique d'ailleurs cette volonté de maîtrise totale à sa propre lecture de l'histoire. Il se définit comme un Français de longue mémoire.
Concept très intéressant.
Oui, ça veut dire qu'il refuse de trier. Il revendique l'héritage pré-chrétien, donc païen, autant que la grandeur du catholicisme. Et plus surprenant encore, tout en fustigeant les erreurs qu'il juge mortelles de la réforme protestante et de la Révolution française, il accepte qu'elles aient pu produire une certaine forme de génie intellectuel et qu'elles fassent partie de l'ADN européen.
C'est une démarche de synthèse absolue.
C'est ça.
Et cette démarche, il faut le souligner, elle est extrêmement habile sur le plan tactique.
Traditionnellement, les courants de la droite radicale passent un temps infini à se déchirer sur des querelles de chapelle.
Ouais, les catholiques contre les païens, etc.
Voilà, les pro-européens contre les souverainistes purs et durs. En embrassant la totalité du récit historique, les zones d'ombre comme les périodes de gloire, ils tentent de dépasser tous ces clivages. L'objectif, c'est de forger un nationalisme syncrétique, une sorte de grand parapluie suffisamment large pour rassembler toutes les factions sous l'étendard d'une identité raciale et civilisationnelle commune.
On voit bien la mécanique. Et c'est alors qu'on arrive à la toute dernière partie de l'interview.
Ah.
Et là, préparez-vous pour notre auditoire, parce qu'on passe d'un extrême à l'autre de manière assez vertigineuse. C'est la fameuse question bonus.
Qui porte bien son nom.
Augustin J., qui mène l'entretien, prévient soudainement qu'il faut éloigner les enfants. On vient de passer des heures à débattre de la monarchie capétienne, de l'ascèse morale du moine-soldat et de la poésie occitane du XIVe siècle. Et tout à coup, la question posée porte très prosaïquement sur la taille des organes génitaux de Parsifal.
C'est lunaire.
Il lui demande, et je cite l'expression exacte, « Quel est le poids de ces joyeuses et l'utilité de son service trois pièces ?»
C'est un décalage, enfin, c'est totalement déconcertant. C'est un véritable coup de fouet à la lecture du document.
Mais la réponse de la source est d'un cynisme sidérant. Parsifal répond très sérieusement que ces, je cite, « valseuses, bien lourdes, remplissent deux fonctions. La première, c'est perpétuer sa lignée sans effort particulier. »
Jusque-là, on reste dans son thème.
Et la seconde, « servir de balancier naturel pour, je cite encore, « garder l'équilibre quand mon bras se tend bien haut.
Mmh. »
Il faut vraiment le lire à deux fois pour réaliser la violence du sous-entendu.
Oui, ce moment précis, c'est peut-être la clé de voûte de toute notre analyse d'aujourd'hui. C'est pas juste une blague graveleuse de fin d'interview. C'est le moment exact où le vernier des hautes sphères intellectuelles craque. Et il craque délibérément.
Mais dans quel but ?
Tout au long de l'entretien, la source a bâti une image de noblesse d'âme. Il convoque Kundera, la diplomatie médiévale, la discipline morale. Et en une fraction de seconde, il plonge dans l'humour de corps de garde, couplé à la référence la plus crue et explicite qui soit, à savoir le salut nazi, le bras tendu.
C'est ça qui est incompréhensible. Pourquoi gâcher tout cet immense effort intellectuel avec une blague aussi sordide ?
Parce que dans l'écosystème des radicalités politiques, l'humour transgressif est l'outil de cohésion sociale par excellence. En fait, c'est un test de pureté.
Un test de pureté ?
Oui. Après avoir prouvé au monde qu'il savait lire Brunelhache et penser la géopolitique Parsifal, s'adresse directement au noyau dur de ses pairs pour leur dire en gros « Ne vous inquiétez pas, derrière le vocabulaire châtié, je suis avec vous. Je suis prêt à assumer l'héritage le plus sombre et le plus violent. »
C'est un clin d'œil appuyé.
Totalement. Le rire gras autour du bras tendu fonctionne comme un filtre. Il horrifie le lecteur extérieur ou le modéré qui va fuir immédiatement en lisant ça, ce qui garantit au groupe de rester entre soi. Pour les initiés qui partagent la blague, ça cimente une fraternité indéfectible qui est basée sur la transgression absolue des tabous de notre époque.
Ce qui nous amène à devoir synthétiser cette immense cartographie mentale. Le portrait robot qu'on vient de dresser, c'est celui d'un profil qui est profondément enraciné géographiquement et historiquement. C'est un individu qui manipule des concepts littéraires complexes, des références pointues et qui s'impose une discipline de vie implacable pour maîtriser ses propres failles.
Et le piège serait de s'arrêter à ce constat flatteur.
Exactement. Parce que toute cette puissante machinerie intellectuelle et personnelle, elle n'est pas mise au service d'une intégration ou d'une réussite au sein de notre contrat social moderne. Elle alimente un rejet viscéral de la démocratie et elle nourrit l'élaboration froide, méthodique et assumée d'un projet fasciste total.
Et je dirais que si l'on doit retenir une chose pour quiconque écoute cette exploration, c'est la nécessité de comprendre la nature de l'offre proposée par ces mouvements radicaux.
L'offre positive, tu veux dire ?
C'est ça. Pendant très longtemps, on s'est contenté d'expliquer ces dérives par le manque d'éducation, par le déclassement économique ou le simple mimétisme de la haine. Mais ce document, il prouve cliniquement le contraire. La radicalisation intellectuelle se construit ici sur une offre positive à destination d'elle-même.
Elle propose un cadre, en fait.
Elle propose à une jeunesse en quête de sens un cadre strict, un récit héroïque, une appartenance communautaire très puissante et une hauteur de vue historique. Pour des esprits qui ressentent le vide ou la superficialité du monde de la consommation actuelle, la promesse d'une destinée esthétique et chevaleresque possède un pouvoir d'attraction énorme qu'il serait vraiment périlleux de sous-estimer.
C'est effrayant de lucidité. Et ça amène à réfléchir sur l'état de nos propres modèles de société. C'est d'ailleurs une pensée très provocatrice à emporter avec soi à la fin de cette analyse.
Tout à fait.
Si des esprits éduqués en viennent aujourd'hui à percevoir la paix démocratique, le droit de vote et les libertés individuelles non plus comme des conquêtes inestimables, mais comme des simples mirages épuisants ou des anesthésiants mortels,
la question se pose, oui.
Comment le contrat social contemporain peut-il retrouver de la vigueur ? Comment une société ouverte peut-elle réenchanter son propre récit pour réintégrer intellectuellement ceux qui, face à la complexité du monde libre, ont fait le choix conscient de la sécession autoritaire ?
C'est le défi de notre époque.
Le défi est immense. Et comprendre les rouages de cette adversité en est la toute première étape. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des sources. À très bientôt pour une nouvelle analyse.